Vous écoutez, on lit pour vous.
Il est temps d'agir. Un texte d'Orlando Arriagada, paru le 19 août 2025 dans La Presse. Le producteur Orlando Arriagada rappelle l'importance pour le milieu de la production télévisuelle de l'application de la loi C-11 le plus rapidement possible. Quand j'allume la télévision et que je tombe sur une série québécoise, j'entends mon accent, je vois mes paysages, je reconnais mes références. Ces images et ces histoires ne sont pas qu'un divertissement, elles sont notre miroir collectif. Mais ce miroir rétrécit. Peu à peu, il est remplacé par des productions venues d'ailleurs, porté par les grandes plateformes internationales. Si rien n'est fait, ce sont leurs récits, leurs valeurs et leurs images qui finiront par façonner notre imaginaire. Notre cinéma, notre télévision, nos séries et nos documentaires ne font pas seulement partie de la culture, mais ils sont un moteur économique important. Chaque tournage mobilise des dizaines, parfois des centaines de personnes. Acteurs, réalisateurs, maquilleurs, costumiers, décorateurs, preneurs de son, monteurs, chauffeurs, traiteurs, hôteliers, restaurateurs, loueurs de camions et de matériel. Au Québec, les industries culturelles génèrent environ 17 milliards de dollars par année, autant que la foresterie et presque autant que l'agroalimentaire. À l'échelle canadienne, elle rapporte plus que l'agriculture ou l'hébergement-restauration. Chaque dollar investi rapporte plusieurs fois sa mise dans nos villes et nos régions. Des équipes de tournage s'installent quelque part, ce sont des hôtels qui se remplissent, des restaurants qui fonctionnent à plein régime, des commerces locaux qui accueillent de nouveaux clients. Chaque production est aussi une école à ciel ouvert pour les jeunes talents qui apprennent au contact des meilleurs et se préparent à prendre la relève. Protéger notre culture audiovisuelle, c'est donc protéger une activité qui crée de l'emploi, forme la relève, améliore notre savoir-faire et exporte notre image dans le monde. Pendant que nous hésitons, les géants de la diffusion en continu avancent, comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, YouTube. Ils occupent nos écrans, dictent nos habitudes de visionnement et contrôlent les algorithmes qui décident de ce que nous voyons. Ils gagnent beaucoup d'argent ici, mais investissent peu dans notre cinéma et notre télévision. Une loi à mettre en application. La loi C-11 doit obliger ces plateformes à contribuer au financement et à la visibilité de notre culture audiovisuelle. Mais sa mise en application tarde, freinée par des contestations judiciaires et des manœuvres visant à en repousser l'échéance. Pourtant, ce que je souhaite existe déjà ailleurs en France, en Espagne, en Australie, en Corée du Sud, où les plateformes financent massivement les productions locales. Et ça fonctionne! Je crains aussi que nous perdions nos talents qui portent notre vision à l'international. Notre système de formation et de soutien a permis l'émergence de créateurs et créatrices qui, par leur succès, sont devenus de véritables ambassadeurs de notre vision du monde. Je pense à Denis Villeneuve, Théodore Pellerin, mais aussi à Jessica Lee Gagné, directrice de la photographie reconnu pour Escape at Dannemora et Severance, ou encore à Karin Vanas, remarquée dans Panam, Revenge et plusieurs films. Ces artistes et artisans ne sont pas seulement des visages connus. Ils ouvrent la voie à d'autres, inspirent la relève et exportent notre manière unique de raconter des histoires. Sans un système solide pour les former et les soutenir, cette présence à l'international pourrait disparaître avec tout ce qu'elle apporte à notre rayonnement et à notre économie créative. Le Québec a le talent, les infrastructures, la diversité culturelle et la créativité. Nous avons des écoles réputées, des studios modernes, des équipes techniques reconnues dans le monde entier. Mais nous tardons à agir, et ce retard nous coûte cher. Si nous restons inactifs, nos productions perdront encore de la place à l'écran, non pas par manque de qualité, mais par manque de visibilité. Nos jeunes talents iront ailleurs. Nos histoires voyageront moins et notre image à l'international s'effacera. En résumé, en agissant maintenant, nous pourrions doubler nos exportations audiovisuelles, créer des milliers d'emplois qualifiés, faire connaître nos créateurs partout dans le monde et stimuler des secteurs comme le tourisme, la restauration, le transport et la technologie. Je souhaite que le gouvernement applique le plus rapidement possible la loi C-11, mette en œuvre un plan stratégique clair, investisse dans la formation, la création et la promotion internationale, renforce nos télévisions publiques et développe des partenariats avec l'Europe, l'Amérique latine et l'Afrique. Protéger notre culture audiovisuelle, ce n'est pas défendre un petit milieu fermé. C'est défendre notre économie, préparer la relève et affirmer notre identité. Nous avons tout pour réussir, sauf le courage politique d'agir. Chaque jour où nous attendons, nous perdons un peu de notre voix. Et une voix, quand on la laisse s'éteindre, elle est beaucoup plus difficile à retrouver. C'était « Il est temps d'agir », un texte d'Orlando Arriagada, paru le 19 août 2025 dans La Presse.
L'obésité dépasse désormais la sous-nutrition chez les enfants et les adolescents. Un texte d'Amélie Botelier-Depois de l'Agence France-Presse, paru le 9 septembre 2025 dans La Presse. Nations Unies. L'obésité s'est envolée ces dernières années chez les enfants et adolescents, matraqués par la publicité pour la malbouffe, devenant même cette année la première forme de malnutrition chez les 5-19 ans dans le monde, devant la sous-alimentation, alerte l'UNICEF. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de malnutrition, nous ne faisons plus uniquement référence aux enfants présentant une insuffisance pondérale, commente la patronne de l'agence onusienne Catherine Russell. L'obésité est un problème de plus en plus préoccupant qui peut avoir des répercussions sur la santé et le développement des enfants, ajoute-t-elle. Alors que la lutte pour réduire la faim dans le monde porte en partie ses fruits, la prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants et adolescents suit une pente descendante, passant de 13 à 10 % entre 2000 et 2022 chez les 5-19 ans, selon des données récoltées dans 190 pays. Mais sur la même période, le surpoids est monté en flèche, le nombre des 5-19 ans touchés doublant entre 2000 et 2022. 194 à 391 millions. Et la hausse est encore plus marquée pour l'obésité, forme plus grave du surpoids associée à des désordres métaboliques comme le diabète et à certains cancers, et parfois accompagnée d'une faible estime de soi, d'anxiété et de dépression. Ainsi, en 2022, 8% des 5 à 19 ans dans le monde, 163 millions, souffraient d'obésité contre 3% en 2000. Échec de la société. Sur la base des deux tendances inverses, l'UNICEF estime que 2025 marque un tournant historique. Pour la première fois, la prévalence mondiale de l'obésité chez les enfants et adolescents en âge scolaire dépasse celle de l'insuffisance pondérale, 9,4% contre 9,2%. Ainsi, 188 millions d'enfants et adolescents de 5 à 19 ans vivent avec cette maladie chronique, selon ses projections. Premier coupable, un environnement toxique créé par l'industrie des aliments ultra-transformés et ses pratiques commerciales contraires à l'éthique, destinées à faire des profits, mettent en cause l'UNICEF. Les enfants sont bombardés par le marketing alimentaire malsain, y compris à l'école où sont exposées boissons ultra-sucrées ou en cas ultra-transformées pauvres en nutriments, explique à l'AFP Catherine Schatz, une des auteurs du rapport. Des produits souvent moins chers que les aliments frais, fruits, légumes ou protéines, qu'ils remplacent petit à petit dans le régime alimentaire des familles. Mais l'UNICEF insiste. La faute n'en revient ni aux enfants, ni à leurs familles, mais à un échec de la société. L'agence rejette aussi le mythe autour du sport. Il est impossible d'échapper aux conséquences sur la santé de la malbouffe, seulement par l'activité physique. Urgent. Historiquement, la prévalence du surpoids chez les enfants et adolescents était plus importante dans les pays développés. Elle reste élevée, par exemple, au Chili, 27% des 5-19 ans, ou aux États-Unis, 21%. Mais depuis 2000, l'écart entre pays riches et pauvres se réduit, avec des taux d'obésité qui s'envolent dans certaines îles du Pacifique, où les importations remplacent les produits traditionnels comme Niue, 38%, les îles Cook, 37%, ou Nauru, 33%. Et pour certains pays, c'est la double peine avec la coexistence de la sous-nutrition et de l'obésité. Comme dans certaines zones en crise humanitaire où de grandes entreprises du secteur donnent de grandes quantités de malbouffe pour promouvoir leur image et où des enfants qui ont faim se retrouvent à n'avoir accès qu'à des aliments néfastes pour leur santé, déplore Catherine Schatz. Il est urgent d'instaurer des politiques qui aident les parents et les personnes s'occupant d'enfants à accéder à des aliments nutritifs et sains, plaide Catherine Russell. L'UNICEF appelle notamment les gouvernements à des mesures contraignantes comme des restrictions publicitaires, des taxes sur les boissons sucrées et aliments néfastes, un meilleur étiquetage diététique ou des politiques pour réorienter le système agroalimentaire vers la production de produits frais. C'était « L'obésité dépasse désormais la sous-nutrition chez les enfants et les adolescents », un texte d'Amélie Botelier-Depois de l'agence France Presse, paru le 9 septembre 2025 dans La Presse.
L'industrie forestière peut-elle nuire aux oiseaux migrateurs, même si la loi l'interdit ? Un texte d'Alexandre Shields, paru le 13 août 2025 dans Le Devoir. Des centaines de millions d'oiseaux migrateurs reviennent chaque année se reproduire dans les forêts du Canada et du Québec, où ils sont en théorie protégés par une loi fédérale très stricte qui interdit de leur nuire ou de détruire leur nid. L'industrie forestière peut pourtant mener des coupes intensives durant cette période critique pour la faune aviaire, et ce, même si la perte d'habitat constitue une menace pour plusieurs espèces. À l'échelle nord-américaine, les forêts canadiennes sont considérées comme des écosystèmes essentiels pour des centaines d'espèces d'oiseaux, la forêt boréale étant même considérée comme la pouponnière de la faune aviaire. Uniquement au Québec, plus de 150 espèces en dépendent pour se nourrir et se reproduire. Il existe d'ailleurs au pays la loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs qui interdit de nuire aux oiseaux migrateurs et de déranger ou de détruire leurs nids ou leurs œufs, et ce, partout au Canada. Environnement et Changement Climatique Canada, ECCC, souligne aussi par courriel qu'en vertu de cette loi, mais aussi du règlement sur les oiseaux migrateurs de 2022, les oiseaux migrateurs sont protégés en tout temps et tous les nids d'oiseaux migrateurs sont protégés lorsqu'ils contiennent un oiseau vivant ou un œuf viable. Les industries sont obligées de respecter ces réglementations dans la réalisation de leurs activités, assure le ministère. À titre d'exemple, Northvolt a dû détruire les zones boisées de son site en période hivernale afin de respecter la réglementation qui interdit les coupes à partir du printemps jusqu'à la fin de l'été. Même chose pour le méga-projet portuaire de Contrecœur. En cas d'infraction, les contrevenants s'exposent d'ailleurs à des amendes importantes. Ainsi, en 2021, un résident de Saint-Jérôme a dû payer 60 000 $ pour avoir détruit 4 nids d'hirondelles. L'an dernier, 2 citoyens ont fait l'objet d'amendes similaires pour avoir enfreint les règles qui protègent les oiseaux migrateurs. Est-ce que l'industrie forestière active ici a déjà été condamnée de la sorte ? ECCC n'a pas imposé des amendes pour des coupes forestières qui contrevenaient à la réglementation en forêt boréale au Québec, précise le ministère par courriel. Les experts consultés par Le Devoir sont pourtant formels. Les coupes industrielles peuvent très clairement enfreindre la réglementation. Toute entreprise qui récolte du bois pendant la saison de nidification des oiseaux enfreint la loi, car il y a tout lieu de s'attendre à ce qu'elle détruise au moins un nid actif d'une espèce d'oiseau migrateur. C'est la même chose pour les agricultures ou les municipalités qui fauchent un champ lors de la saison de nidification, résume le directeur adjoint pour le Québec et les provinces atlantiques d'Oiseaux Canada, Andrew Coughlin. Il est plus que raisonnable de penser que les coupes forestières effectuées entre la mi-mai et la mi-juillet, et même entre la fin avril et la fin août pour certaines espèces, détruisent des sites de nidification d'oiseaux migrateurs, même si ceux-ci sont légalement protégés, ajoute-t-il. Chercheur spécialiste des oiseaux et professeur invité à l'Université Laval, Junior Tremblay, a déjà constaté sur le terrain la destruction, en raison de coupes, de nids qui faisaient partie de travaux scientifiques de suivi des populations. Selon lui, il est indéniable que l'abattage d'arbres détruit des nids, des œufs et des oisillons, même s'il est difficile d'estimer les pertes globales à l'échelle canadienne. Dans une étude réalisée en 2013 et à laquelle M. Tremblay fait référence, la perte annuelle de nids attribuable à la récolte forestière industrielle a été estimée entre 616 000 et 2,1 millions de nids. L'étude en question reconnaissait toutefois que cette évaluation devrait être bonifiée à l'aide de données sur la densité d'oiseaux afin d'avoir un portrait plus précis. ECCC ne nous a pas fourni de données plus récentes malgré une demande en ce sens. Manque de moyens. Nature Québec estime, pour sa part, qu'il est difficile de faire appliquer la législation fédérale en forêt, notamment en raison du manque de moyens à la disposition de ECCC. Cela ne peut toutefois justifier l'inaction. Le gouvernement fédéral a un outil puissant entre les mains. Il doit se donner les moyens d'appliquer sa propre loi, notamment en investissant dans la surveillance, en outillant les provinces et en envoyant un message clair à l'industrie forestière. La protection des oiseaux migrateurs ne peut être laissée à la bonne volonté, fait valoir sa directrice générale, Alice Anne Simard. Le Canada ne peut prétendre vouloir freiner la perte de biodiversité tout en tolérant que des coupes forestières détruisent, année après année, des milliers de nids d'oiseaux migrateurs, pourtant protégés par la loi, ajoute-t-elle. Selon un rapport publié l'an dernier par Oiseaux Canada et ECCC, des dizaines d'espèces d'oiseaux subissent un déclin alarmant de leur population, notamment en raison de la destruction de leur habitat. Du côté de l'industrie, on dit toutefois respecter la réglementation et faire des efforts pour la protection de la faune aviaire. Les industriels forestiers sont tenus d'être à l'affût, d'identifier et de protéger les nids actifs lorsqu'ils en voient un, résume la vice-présidente des communications et des affaires publiques du Conseil de l'industrie forestière du Québec, Véronique Normandin. Au Québec, plus de 90% du territoire public sous aménagement est certifié par un tiers indépendant. Ces certifications ont, d'une part, des exigences relatives au respect des lois, règlements et conventions en vigueur. D'autre part, elles prennent en considération les enjeux de conservation et de maintien de la biodiversité pour lesquels les organisations certifiées doivent démontrer les actions prises en ce sens, explique-t-elle. Cela comprend des mesures particulières pour les oiseaux. C'était « L'industrie forestière peut-elle nuire aux oiseaux migrateurs même si la loi l'interdit ?» Un texte d'Alexandre Shields paru le 13 août 2025 dans Le Devoir.
La première fois de Debbie Lynch-White. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 1er octobre 2025 dans le magazine Fugue. Debbie Lynch-White a l'habitude de porter les mots des autres au cinéma, au théâtre et à la télévision depuis sa sortie de l'école il y a 15 ans. Mais l'actrice ose cette fois écrire et mettre en scène sa toute première œuvre théâtrale, L'usure de nos aurores. La licorne, 7 octobre au 15 novembre. Une des rares pièces québécoises mettant en scène des personnages de lesbiennes. Il y a plusieurs années, tu m'as confié que tu ne te voyais pas comme une autrice. Cet automne, tu présentes ta première pièce. Comment a évolué ta confiance en ta plume? Je suis de plus en plus confiante. À 39 ans, j'ai un peu plus de je m'en foutisme. Je me suis longtemps questionnée. Comme je lis beaucoup et que je vais au théâtre souvent, je me demandais ce que ma voix d'entre toutes les voix déjà si forte apporterait de plus. Ce sentiment d'imposture m'habitait, alors que j'écris depuis mes 17 ans. Ma confiance est finalement solidifiée grâce à ma maîtrise en théâtre sur le silence pendant 4 ans. Durant mon parcours, j'ai reçu la validation dont j'avais besoin. Est-ce que l'intérêt de la licorne a été une validation supplémentaire? Oui, et sincèrement, je n'en revenais pas. Je ne dis pas ça pour me déprécier. Je crois beaucoup au fait de commencer au bas de l'échelle. Je leur ai envoyé mon texte en rêvant que ce soit joué dans la petite salle du théâtre, en production autogérée, en sortant un peu de mes rières et en m'associant avec une jeune compagnie, parce que c'est mon premier texte et que je n'ai jamais fait de mise en scène. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Non. Le texte a bouleversé Philippe Lambert, le directeur. Quand il m'a proposé de présenter la pièce dans la grande salle, je te jure, je n'avais jamais imaginé ce scénario. Quel plateau d'argent on me donne! Depuis toujours, la licorne est un de mes théâtres préférés. Il y a longtemps, on avait joué Clore et Sylvie et Maurice là-bas. Ce théâtre est celui qui me donne des premières chances. Leur confiance me touche beaucoup. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de savoir que ta parole va résonner sur scène? J'essaie de ne pas trop imaginer le soir de la première. Je pense que je vais m'évanouir. Cela dit, je suis confiante en ce que je défends. J'amène quelque chose de profondément sincère. Ne serait-ce que de mettre des lesbiennes sur scène dans une pièce québécoise. Elles sont où au théâtre? Il n'y en a presque pas. À part Christine, la reine garçon de Michel-Marc Bouchard et Coco de Nathalie Doumard. Pour moi, c'était un moteur très fort. En plus, je souhaite mettre en scène une forme d'ultra-intimité, ce qu'on ne devrait pas voir, ce qu'on ne sait pas des gens, ce qui se passe dans leur chambre à coucher. Dans la pièce, tu demandes combien de chances on est prêt à donner en amour. Pourquoi cette question était assez brûlante pour en faire une œuvre? Parce que je suis une grande amoureuse et romantique. J'ai vécu des histoires qui n'ont pas de bon sens que je raconterai un jour dans ma bio de vieille actrice. Aussi, j'ai manqué d'amour, alors j'ai compensé de plein de façons. Je fais partie de celles qui ne se sont pas toujours respectées par amour. Heureusement, merci à ma psy, à la vie qui change et à mes amis. J'évolue de belles façons. Dans les dernières années, je me suis beaucoup questionné à propos de notre conception de l'amour. Longtemps, j'ai voulu qu'il soit grandiose et douloureux. J'ai cherché cette intensité-là, mais plus je vieillis, plus je pense que le vrai amour n'a pas besoin de t'arracher le cœur à tout prix. C'est quelqu'un qui calme ton système nerveux, qui est à l'écoute de tes besoins, qui est vraiment là pour toi. Dans la pièce, ces filles-là donnent trop de chance à l'amour et ne se respectent pas beaucoup. Présente-nous tes personnages, Elisabeth et Justine. Justine est chirurgienne dentaire. Elisabeth travaille dans une compagnie de techno. On les retrouve le soir des 35 ans de Justine. On assiste à la fin de la fête quand elle s'apprête à se coucher. Elles se mettent à jaser et tout part. Finalement, elles ne dormiront jamais. Je ne voulais pas mettre un bourreau et une victime. Pour moi, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les deux sont embourbés dans leur trauma et il leur manque encore une couple d'années de psy. Elles sont prises dans le cycle de la violence qui les réaspire constamment. Kim Despaty et Rosanne Derry jouent les deux femmes. Qu'est-ce qui a orienté ton casting? Le choix de Kim allait de soi. Elle est capable d'être super sympathique et attachante, mais en une réplique, elle devient terrifiante. Rosanne, je trouve que c'est une grande actrice aussi. Ça me prenait des interprètes qui ont un super sens du timing et qui étaient capables d'habiter les silences dans une économie de gestes. Je voulais des actrices drôles, touchantes, épeurantes et assez en forme pour jouer la pièce qui est physique. En plus, elles ont déjà joué des blondes et des sœurs au théâtre. J'ai été chanceuse que ce ne soit pas la première fois qu'elles se rencontrent sur scène. Quels sont tes autres projets cet automne? Je tourne une série à Télé-Québec. À la fin octobre, je vais jouer dans Malaise, dans la civilisation, salle Fred Barry, 28 octobre au 15 novembre, d'Étienne Lepage. On tourne ce show depuis 2 ans et demi. On est allé en Belgique, à Los Angeles et à New York. On va bientôt aller en France. Tout le monde nous demandait quand on allait jouer à Montréal. On y sera 3 semaines. C'est vraiment bon. On suit 4 personnes qui débarquent dans un théâtre sans trop savoir où elles sont et elles finissent par tout saccager avec des dialogues très philosophiques. C'est vraiment niaiseux. Tu as aussi 2 sorties de films durant les prochaines semaines. Oui. Et maintenant, un film franco-ontarien du réalisateur Jocelyn Fong que j'ai tourné à Ottawa l'été passé avec Pierre-Paul Alain et Vlad Alexis. C'est une super belle histoire d'amitié autour d'un gars qui apprend qu'il a le cancer. Et puis, Les Furies, notre film de roller derby qui va sortir fin novembre. J'ai assez hâte de voir ça. On s'est entraîné pendant des mois. Il y a des reines de la comédie là-dedans. Je pense vraiment que ça va être bon. NFOS. L'usure de nos aurores. Un texte et une mise en scène de Debbie Lynch-White du 7 octobre au 15 novembre au théâtre La Licorne. C'était la première fois de Debbie Lynch-White. Une entrevue réalisée par Samuel La Rochelle, parue le 1er octobre 2025 dans le magazine Fugue.